Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets? Et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau?
3, 2, 1.
Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer, en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat, et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Que le premier entrepreneur qui n'a pas procrastiné sur la compta et le pilotage financier de son business me jette la première pierre. Pourtant, la gestion financière dans un business, ce n'est absolument pas en option. C'est même un pilier indispensable pour développer une entreprise prospère et rentable. Alors il y a évidemment la compta qu'on fait dans tous les cas, enfin j'espère, parce que factuellement, je pense que personne n'a envie de voir l'URSSAF toquer à sa porte pour réclamer des charges. Mais le pilotage financier d'un business, ça va largement au-delà de la comptabilité. Les finances font partie des responsabilités que l'on accepte quand on devient entrepreneur. Et c'est alors notre rôle de poser des objectifs, de suivre des indicateurs, d'optimiser tout ça, etc. Cette semaine sur le podcast, on va donc parler de chiffres, de moula, d'oseille. Et j'ai le plaisir de recevoir Ina Diallo, experte en stratégie financière. Avec Ina, on a parlé de la différence entre comptabilité et stratégie financière, de l'importance de travailler sa rentabilité, et on te donne des clés pour mettre ta stratégie financière au service de ta sérénité et de tes objectifs. Bonne écoute! Les chiffres, ça fait un peu peur, et je suis sûre que sur tous les aspects de gestion, de pilotage, de finances, c'est parmi les premières choses que la team procrastination qui nous écoute repousse à demain. Donc je suis encore plus heureuse qu'heureuse de t'accueillir sur le podcast, Ina. Bienvenue à toi.
Merci Claire. Déjà, je tenais vraiment à te remercier de m'avoir invitée sur ton podcast. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui et de parler de ce sujet qui est si important pour le chef d'entreprise.
Complètement. Donc, on va parler aujourd'hui de gestion, de chiffres, de pilotage financier de manière générale. Mais avant ça, on a une petite tradition sur le podcast. Ne prends pas peur tout de suite. Je pose toujours à mes invités des petites questions en rafale. L'idée, c'est un peu d'apprendre à mieux les connaître en quelques questions avant de rentrer dans le cœur du sujet. Et du coup, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de répondre à mes petites questions en une phrase ou deux. Est-ce que t'es prête?
Écoute, je suis prête. Waouh, j'ai le cœur qui bat là.
Tout va bien, t'inquiète pas, pas de pression. C'est quoi pour toi une entreprise prospère?
Alors pour moi, une entreprise prospère, c'est une entreprise qui a une stratégie déjà, qui est mise en place, une organisation surtout, et une gestion en interne. Voilà, pour moi c'est une entreprise prospère. Alors je rajoute quelque chose parce qu'on parle toujours de l'entreprise, mais il y a aussi le dirigeant. Je rajouterais l'équilibre du chef d'entreprise. Voilà.
Hyper intéressant. C'est quoi que quand tu arrives dans un business et que tu as comme vocation d'épauler les chefs d'entreprise dans leur gestion financière, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans les chiffres de tes clients? C'est quoi l'indicateur que tu regardes en premier quand tu arrives dans un business?
Je travaille toute la partie prévisionnelle. Voilà, parce que les chiffres, ils parlent, ils disent la vérité. Et là, quand on travaille les chiffres, c'est-à-dire qu'on met en place un budget prévisionnel et qu'il voit ses entrées, ses sorties et la rémunération qu'il souhaite avoir par rapport à ses dépenses personnelles et également par rapport à ce que lui veut faire au sein de sa vie personnelle, on fait le point. Et là, je peux te dire que Claire, le chef d'entreprise, il est assis, il me dit « Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui, pourquoi ?» Parce qu'il ne pose pas ses chiffres, il ne se pose pas, il ne prend pas du temps pour justement voir où il en est. Et là, c'est la claque.
Mais merci de le dire. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, entendez bien ce que Ina vous dit là, parce que personnellement, c'est aussi quelque chose que je rencontre chez les entrepreneurs que j'accompagne. Le côté, en fait,
on est très très bon souvent dans l'opérationnel, etc. Mais on prend rarement le temps de se poser sur la stratégie, et les chiffres font partie de la stratégie. C'est hyper important de se donner de la visibilité sur ces chiffres, d'avoir des outils qui nous guident aussi dans notre pilotage financier. Et c'est exactement ce pourquoi je voulais qu'on discute ensemble sur le podcast aujourd'hui, Ina. Donc on va creuser tous ces sujets. Ma dernière question, en rafale entre guillemets, que je voulais te poser, tu vas voir, je suis sûre que la réponse va être évidente. Est-ce que tu es dans la team Martinique ou est-ce que tu es dans la team Métropole?
Ah, moi, je suis dans la team du monde, Claire. Je suis une enfant du monde. Je suis partout. La team Martinique, bien sûr, parce qu'il y a la Caraïbe, il y a le soleil. Mais je pense que le soleil, il est partout dans le monde. Et moi, j'aime le monde. J'aime parcourir le monde et je me considère comme une enfant du monde. Alors, j'aime particulièrement Paris, c'est normal. J'y suis née aussi et j'aime la Martinique parce que c'est chez moi, mais je n'ai pas que la Martinique, je suis également malienne, africaine de papa. Donc, c'est pour ça que je me considère comme une enfant du monde. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le détail de ces chiffres, etc. Qu'est-ce qu'on doit suivre comme chiffres dans une entreprise? Comment est-ce qu'on les fait parler? Comment est-ce que ça va impacter notre stratégie, nos objectifs, etc. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et dire aux personnes qui nous écoutent qui tu es, c'est quoi ton métier?
Alors moi, je suis Ina Diallo, donc j'ai un cabinet de consulting depuis 12 ans qui accompagne les chefs d'entreprise dans toute la partie stratégie financière, basée beaucoup sur la rentabilité, mais également le développement de l'entreprise. Donc auparavant, on avait commencé ce cabinet dans l'accompagnement des nouveaux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'accompagne plus particulièrement les chefs d'entreprise qui ont plus d'un an d'activité, qui souhaitent faire le point sur leur structure, qui souhaitent développer leur structure et apporter un peu plus de stratégie. Et en parallèle, j'ai également deux restaurants avec mon époux depuis 2 ans, en Martinique. Donc du coup, nous avons 14 salariés et vous voyez, ça n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'important, c'est la gestion. Et l'organisation. Les restaurants, on a été beaucoup touchés par le Covid. Et mon entreprise m'a permis de voir qu'il était important d'avoir ce métier de gestion pour pouvoir justement développer la structure qu'on a aujourd'hui depuis 12 ans, mais aussi la maintenir. Voilà.
Hyper clair. On va rentrer dans le détail. On a un petit peu discuté en amont de l'épisode. Et on discutait justement du fait que dans beaucoup de business, les entrepreneurs font leur compta parce que en vrai, personne n'a envie d'avoir l'URSSAF qui vient toquer à sa porte. Mais par contre, il y a une dimension pilotage financier qui est un peu moins développée chez les entrepreneurs et peut-être une conscience qui est un peu moins développée de ce point de vue-là. C'est quoi la différence que tu fais entre comptabilité et gestion financière, pilotage financier dans un business?
Alors c'est une très très bonne question, Claire, et c'est très bien qu'on en parle parce que beaucoup de gens se trompent justement. Et moi je vais te dire que la comptabilité, elle va se concentrer plus particulièrement sur l'enregistrement des transactions financières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui sort et rentre d'une entreprise doit être justifié par des documents financiers. Donc, ces documents financiers doivent être justifiés par des factures, des relevés bancaires, voilà, on le sait tous, voilà. Et donc, du coup, lorsque vous avez vos factures, pour ceux qui ont un expert comptable ou un comptable, ou même qui font leur comptabilité en interne, vous transformez ces documents en transactions financières et ces documents se transforment en un grand livre qui va réunir toutes les informations que vous avez en interne et se transformer en une balance. Et cette balance va se transformer en une liasse fiscale, d'accord ? Qui va servir justement à payer ses impôts et aussi documents justificatifs. On ne va pas aller trop loin dans cette explication parce que sinon il y a tellement de choses à dire sur la comptabilité. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que tous ces documents-là sont des transactions financières. Donc, c'est une grande différence. Tandis que le pilotage financier, lui, il va impliquer l'analyse stratégique des données pour guider vos décisions. Donc, en interne, vous allez avoir une gestion, vous allez avoir une organisation, c'est-à-dire des tableaux qui vont vous permettre, grâce aux chiffres des transactions financières, qui vont vous permettre de prendre des décisions, d'accord ? Qui vont vous permettre d'anticiper. Parce que si vous avez votre comptabilité qui est gérée en interne, c'est super, vous aurez les chiffres en interne. Mais moi, je ne demande pas au chef d'entreprise de faire sa comptabilité. Je lui demande juste d'avoir une gestion en interne, une organisation, des tableaux de bord, des tableaux de gestion qui lui permettent d'avoir, de savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui lui reste, d'accord ? Qui puisse lui permettre aussi de prendre une décision. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir votre bilan comptable pour prendre des décisions. Par contre, si vous avez un tableau qui vous permet de savoir où vous en êtes et d'anticiper sur des problèmes ou tout simplement un tableau qui vous permette de savoir si là aujourd'hui vous avez la possibilité de recruter, eh bien c'est génial. Pourquoi ? Parce que quand on fait un appel, on fait appel à un expert comptable, il a 10 000 dossiers. Vous n'êtes pas le seul. Par contre, si vous avez un comptable en interne dans votre entreprise, c'est super. Il est à votre disposition. Il peut tenir également le tableau de gestion, vous le transmettre et aussi la comptabilité. Donc, vous avez les chiffres en interne. Mais si vous faites appel, par contre, à un expert comptable, c'est différent. Il a un devoir de conseil. Il vous accompagne, mais il n'est pas tous les jours avec vous. Donc, vous devez garder cette clé. Vous devez maîtriser en interne la gestion de votre entreprise.
Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça en fait. Souvent on voit la comptabilité comme quelque chose qu'on va déléguer et qu'une fois que ce sera délégué, on n'aura plus la gestion financière à prendre en charge quand on est entrepreneur. Alors qu'en réalité, c'est évidemment mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je suis presque certaine qu'on va tomber d'accord sur ça. Quand on est chef d'entreprise, c'est aussi notre rôle de faire le pilotage financier. Parce que l'argent, on va pas mentir, c'est une ressource dans une entreprise. Et quel est le rôle d'un chef d'entreprise, à part piloter les ressources pour les mettre au service de la stratégie et du développement de l'activité? Je veux dire, c'est presque l'essence même du rôle de chef d'entreprise de faire ça. Donc évidemment que c'est hyper important d'avoir des outils pour le faire. Il y a donc une vraie différence entre compta et puis pilotage financier. Je pense qu'on sera d'accord aussi pour dire que la compta, c'est très bien, mais c'est aussi... Tu regardes dans le rétroviseur, donc en fait, c'est très difficile d'anticiper les choses et de l'utiliser comme outil de pilotage pour te projeter. En fait, tu as aussi besoin d'autres outils pour le faire. C'est quoi les piliers pour toi d'un pilotage financier qui soit solide dans un business? Tu as parlé de prévisionnel tout à l'heure. C'est quoi un petit peu les grandes choses qu'on a absolument besoin d'avoir en place dans une entreprise, quelle que soit sa taille, j'ai envie de dire? Et à quoi est-ce que, quelle est la fonction de chacun d'entre eux?
J'ai repéré vraiment 4 grands piliers pour moi, d'accord, d'un bon pilotage financier. 1, la budgétisation. Je vois beaucoup de gens dépenser en communication, en voyage, en plein de choses pour l'entreprise, mais ne font pas de budget. Le suivi des flux de trésorerie, très important, suivre sa trésorerie avec un budget prévisionnel, très important, hein, qu'on ne confonde pas chiffre d'affaires et bénéfices, mais qu'on n'oublie pas qu'il y a la trésorerie nette, hein, ce qui reste véritablement sur le compte. D'accord. L'analyse de la rentabilité, très important, savoir où on en est. Hein. On dépense plus, on peut pas dépenser plus si on n'a pas. D'accord. C'est la gestion des risques. Et chacun vont vraiment ces 4 piliers. Ils vont contribuer à une vision claire de la santé financière d'une entreprise. Pourquoi? Parce que ces 4 piliers que je t'ai donnés vont permettre au chef d'entreprise 1, de contrôler, mais aussi d'identifier les écarts pour corriger les tirs s'il y a une problématique. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez être accompagné par votre expert comptable qui peut également vous accompagner. Vous avez également des consultants qui peuvent vous accompagner à mettre ces 4 piliers en place de façon à ce que vous puissiez être autonome. Mais si vous mettez ces 4 piliers, vous pouvez contrôler, mais identifier, mais surtout corriger.
C'est extrêmement clair sur les piliers à mettre en place. Je pense pareil que notre expérience va se rejoindre sur ce point-là, mais je suis sûre que toi aussi, tu croises beaucoup d'entrepreneurs qui suivent leurs chiffres de manière un petit peu incomplète, on va dire. Alors, tu as parlé tout à l'heure, à l'instant même, de la rentabilité qui fait partie des indicateurs à suivre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, en vrai, qui suivent juste leurs chiffres d'affaires. Dans le meilleur des cas, ils suivent les dépenses de l'entreprise et puis basta. Je pense surtout aux entrepreneurs qui ont encore une structure suffisamment légère pour se le permettre, entre guillemets. C'est quoi les chiffres qu'on a besoin de suivre absolument dans ses finances? Les indicateurs qu'on a besoin de mettre en place très concrètement dans un business?
Alors déjà, l'une des premières choses, c'est la marge brute. Je vais donner un exemple simple pour qu'on reste très pédagogue dessus. Vous avez acheté de la marchandise à 40 euros, vous n'allez pas revendre cette marchandise à 40 euros. Sinon, vous ne ferez pas de marge. Vous allez la revendre à 80 euros, vous aurez une marge de 40 euros.
Donc ça, c'est la marge brute.
Voilà. Ça, c'est un indicateur qui est très important. Ensuite, vous avez les charges à suivre, c'est normal. Vous ne pouvez, si vous ne suivez pas vos charges et que vous dépensez plus que vous en gagnez, on est bien d'accord que vous vous ressortez avec un déficit. Donc, on a ce qu'on appelle les charges fixes. Donc, les charges fixes, c'est tout ce qui revient régulièrement. Je vais donner un exemple, le loyer, les abonnements, les assurances, etc. Et vous avez les charges variables. Les charges variables, ce sont des charges que vous n'avez pas tout le temps. D'accord ? Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont très importants. Ensuite, on a ce qu'on appelle le résultat. C'est votre chiffre d'affaires moins vos charges fixes et vos charges variables. Et là, vous obtenez un résultat. Ce résultat peut être positif si votre chiffre d'affaires est supérieur à vos charges, donc on va parler de bénéfices. Et si c'est le contraire, votre chiffre d'affaires est inférieur aux charges, on va parler d'un résultat négatif, donc un déficit. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait suivre aussi dans le cas où vous avez des salariés ? Il va falloir surveiller votre masse salariale également. En gros, il y a plusieurs indicateurs clés à surveiller, mais déjà pour détecter une mauvaise gestion financière. Vous avez la rentabilité, le besoin de fonds de roulement, l'autonomie financière, les délais de paiement. Ça, c'est très important, le délai de paiement. Je vois que beaucoup de gens ne suivent pas leur délai de paiement, ne suivent pas si leur facture est payée ou pas, parce que souvent, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont tout seuls. Donc, c'est pour ça que je demande aux gens de se donner rendez-vous avec la gestion de leur entreprise, que ça soit non négociable et inscrit sur leur Google Agenda ou écrit quelque part, mais il faut absolument suivre le délai de paiement. Parce que le délai de paiement, imaginez-vous que chaque mois, vous devez sortir en charge 20 000 euros et que vous ne rentrez que 10 000 euros. Pourquoi ? Parce que vous avez des clients qui sont en retard sur leur paiement. Eh bien, vous, vous vous retrouvez en difficulté. Il y a aussi la trésorerie disponible, savoir où vous en êtes et comment vous allez surveiller cet indicateur. C'est en mettant en place votre budget prévisionnel, d'accord ? Votre budget de trésorerie, si vous préférez. Les relances clients aussi, très important. C'est un indicateur qui est très important. Il faut relancer. Alors, beaucoup de gens vous disent, non, ce n'est pas un indicateur. Si, c'est un indicateur. Un client qui est en retard de son règlement, il faut mettre en place une organisation pour pouvoir relancer le client automatiquement. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Un outil de gestion commerciale qui vous permettra de relancer automatiquement ce client. Plus vous surveillez ces indicateurs-là, plus vous allez détecter précocement en fait, les signaux faibles et vous pourrez anticiper et prendre des décisions. Et c'est vraiment le rôle du chef d'entreprise.
Je voulais te demander, parce que ça fait partie des choses, je pense, qui ne sont pas forcément si évidentes que ça. C'est quoi le type d'objectif qu'on peut se donner sur le plan financier quand on entreprend ? Quel type d'objectif est-ce qu'on peut se fixer ? Parce que du coup, si on a des indicateurs, a priori, on peut mettre des objectifs ou des cibles en face de ces indicateurs. C'est quoi les premiers types d'objectifs pour quelqu'un qui découvrirait, tu vois, la gestion financière et qui est, tu vois, vraiment en mode baby steps, quoi ? Ce serait quoi les premiers types d'objectifs qu'on pourrait se donner pour assainir nos finances ?
On peut se fixer des objectifs de croissance, surtout de rentabilité, mais avant de se fixer ces objectifs, il faut déjà qu'on se fixe un objectif d'organisation. Je reviens toujours à l'organisation parce que moi, comme je dis au chef d'entreprise, je peux vous donner tous les tableaux qui peuvent exister. Je peux vous prévoir tous les chiffres qui peuvent exister, la stratégie. Mais si en interne, vous ne vous organisez pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, c'est vraiment se fixer un objectif d'organisation, de routine. Je vais aller jusqu'à la routine parce que c'est une routine en fait. Et surtout, se poser la question de ces fausses croyances et se dire mais qu'est-ce qui fait que j'ai peur en fait de voir mes chiffres, parce que je te jure Claire, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ouvrent pas leur courrier, qui ont peur, et ça peut venir de croyances quand ils étaient jeunes.
Et je plaide complètement coupable, si tu me permets de partager mon expérience personnelle avec les chiffres dans mon business. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, donc je commence quand même à avoir un peu de quoi on parle, tu vois. Et en fait, sur les peut-être les 2-3 premières années où je me suis lancée dans mon entreprise, je ne suivais pas mes chiffres parce que je faisais l'autruche. Parce que comme tu dis, j'avais peur en fait. J'avais peur de réaliser que mon activité ne fonctionnait pas comme je voulais, que j'étais pas aussi rentable que ce que j'espérais. Et du coup, en fait, je faisais comme le pilote là qui n'a aucun instrument et qui navigue à vue et qui va se prendre la montagne. J'étais exactement dans ce schéma. Et aujourd'hui, que j'ai évidemment travaillé sur ces sujets-là, et t'as complètement raison de parler en réalité de mindset et de rapport à l'argent, parce que c'est complètement lié en fait. Quand on a un rapport à l'argent qui est difficile, qui est compliqué, qui est une zone de friction, c'est hyper difficile de mettre en place une gestion financière parce que c'est ce que tu disais, en fait, t'as juste envie de faire l'autruche et t'as pas du tout envie de te confronter à tous ces trucs-là qui fait remonter plein d'émotions pas très agréables. Donc oui, clairement, le conseil, je valide à 100%. À la fois la dimension organisation, t'as raison. En fait, tu peux mettre tous les outils en place que tu veux. C'est comme moi, si je peux livrer en soi, par exemple, un espace Notion à un client, si la personne derrière, elle le prend pas en main et qu'elle ne l'utilise pas, il y aura aucune différence dans sa productivité derrière. De la même manière, tu peux mettre en place tous les outils, les meilleurs outils du monde avec un maximum d'efficience de l'outil en lui-même. Si derrière, tu ne l'alimentes pas et que tu ne fais pas l'effort de l'utiliser, en fait, ça ne te donnera rien de plus que ce que tu as aujourd'hui. Donc, je valide 100% l'organisation et la dimension mindset, bien entendu.
Et dis-moi, Claire, comment tu as fait justement pour pouvoir t'intéresser? Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses justement à la gestion de ton entreprise après ce que tu viens de partager?
On est en train d'inverser l'interview, j'adore.
Pardon?
Non, mais il n'y a aucun problème. Justement, je trouve que c'est l'occasion de partager quelque chose que je n'ai jamais partagé, je pense, sur le podcast. En fait, ce qui a déclenché le déclic, je dirais que c'est deux choses. La première chose, c'est vraiment le sentiment de ne pas réussir à m'en sortir financièrement et d'être dans un sentiment d'insécurité permanent en termes de finances. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, il faut être clair avec soi-même, on ne peut pas sortir du sentiment de peur quand on n'a pas de clarté. Le flou entraîne la peur. Elles vont ensemble, quoi. Le flou et la peur, elles sont hyper copines. Et du coup, il y avait ce truc-là de je n'accepte plus de vivre avec la boule au ventre sur la dimension financière et de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Donc ça, c'est le premier truc qui a été un peu le déclencheur. Et en fait, je me suis faite accompagner sur mon business de manière beaucoup plus large. Et du coup, au moment de cet accompagnement-là, la personne qui m'a accompagnée, qui est Julie, que je salue, qui est déjà passée sur ce podcast, m'a donné en fait les outils. Elle n'est pas spécialement experte, tu vois, en gestion financière, mais elle m'a transmis les outils et des pistes de réflexion. Je me suis emparée de ces trucs-là et à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place notamment un prévisionnel, mais alléluia pour le prévisionnel, s'il vous plaît, genre merci d'avoir inventé cet outil incroyable, parce que du coup, ça m'a permis vraiment du coup de structurer vraiment mon prévisionnel, de le mettre en rapport avec mes objectifs. Et derrière, c'est quelque chose que j'utilise pas au quotidien tous les jours, puisque j'ouvre pas mon prévisionnel tous les jours, mais en revanche, tous les mois, à minima, je vais voir dans mon prévisionnel, je regarde l'écart entre ce que j'avais prévu, ce qui se passe, et ça me permet aussi de piloter tout le reste de la stratégie, en fait, dans l'entreprise. Comme tu dis, de détecter les signaux faibles, de détecter aussi potentiellement les saisonnalités dans le business. Plein de choses, en fait, il y a plein de choses qui se cristallisent dans cette gestion financière. Et du coup, je ne peux que me féliciter de continuer à faire ce suivi et de continuer d'avoir un suivi rigoureux de tout ça, parce que c'est vraiment des outils qui apportent énormément de clarté sur plein d'autres plans. Parce que c'est ce que je te disais, moi, vraiment, pour moi, l'argent, c'est une ressource, comme le temps, en fait, de la même manière. Et on a besoin de piloter ces ressources quand on est entrepreneur, en fait.
Mais bien sûr. Et puis, quand on est surtout indépendant, ça dépend aussi de notre vie personnelle. Ne pas avoir une gestion dans sa vie professionnelle, à un moment, même dans le couple, même dans tout, en fait, hein, ça agit, en fait. C'est pour ça que je parle d'équilibre aussi personnel et professionnel, parce que l'une des premières questions que je demande, Claire, aux clients, c'est combien veux-tu te rémunérer? Et là, on fait le prévisionnel. Et je lui dis, OK. Il me dit, non, c'est trop. Non, je dis, OK, stop, tu m'as dit que tu voulais tant. D'accord? OK, je te montre. On fait le prévisionnel ensemble. Oui, tu vas devoir bosser, mais ce n'est pas ce que tu dois retenir. C'est que tu vas devoir t'organiser, mettre une gestion en interne, actionner tout ce qu'on a mis en place. Et pour mettre tout cela en place, il faut que toi, tu sois prête psychologiquement. Et moi, j'ai adoré quand tu as partagé ton expérience, Claire, parce que c'est ce que beaucoup de chefs d'entreprise ressentent, la boule au ventre. La vie de l'entrepreneur, c'est un cycle. La boule au ventre, on l'aura toujours sur différentes facettes. Mais si on a les outils déjà sur la facette financière, quand vous avez le prévisionnel en face de vous et que vous avez les dates pour la TVA, vous pouvez provisionner le prélèvement de l'URSSAF, le prélèvement des impôts, mais vous savez déjà, votre cerveau est déjà en condition. Et pour s'épanouir dans son business, il faut être au clair avec tout ça.
Et je rajouterais un truc, si tu me permets, pareil, qui vient surtout de mon expérience, mais que j'observe aussi chez d'autres entrepreneurs, c'est que le fait de mettre en place des outils, même quand on a encore des croyances liées à l'argent et que c'est encore un sujet de friction pour nous-mêmes et pour notre cerveau, et de petites batailles internes, les outils permettent, dans un certain sens, de faire une espèce de pas de côté, je trouve, et de remettre du rationnel là où il y a de l'émotionnel, et parfois, justement, de sortir de l'émotionnel un petit peu plus facilement, et de remettre, tu vois, de la clarté, etc. C'est-à-dire vraiment de se dire, quand je suis devant mon outil, évidemment, c'est pas tous les jours facile, mais c'est clair la chef d'entreprise qui est devant l'outil, tu vois, c'est pas clair la personne. Tu vois, il y a une espèce de distanciation qui se fait, je trouve, en mettant les outils en place et qui, je trouve, est très, très aidant quand on part d'un endroit où on a potentiellement un petit peu des difficultés avec toutes les questions financières et les questions liées à l'argent, quoi.
Tu sais, pour moi, travailler la rentabilité, c'est optimiser son temps de travail, équilibrer la vie professionnelle et personnelle et t'assurer de la durabilité de ton business. Même les plus grands entrepreneurs qu'on puisse voir, ils ont en interne leur tableau. Même s'ils ont des contrôleurs de gestion, même s'ils ont des comptables, etc., ils récupèrent bien évidemment les chiffres auprès de ces personnes, leurs directeurs financiers, etc., mais ils ont leur stratégie, ils ont leur tableau en interne pour savoir où ils vont eux. Parce que ça dépend aussi de leur avenir à eux. Beaucoup de gens s'emprisonnent dans leur entreprise. Mais n'oubliez pas, vous étiez salarié, vous n'étiez pas bien, n'allez pas vous emprisonner dans votre entreprise. D'où l'importance de tout le temps vous recycler, c'est-à-dire revoir votre stratégie, revoir votre organisation.
Oui, les finances sont censées aussi venir soutenir toutes ces transformations. Il y a un focus que je voulais faire avec toi en particulier. T'en as déjà parlé un petit peu en introduction, enfin ça parsème un petit peu notre échange, c'est le mot rentabilité, puisque c'est quelque chose aussi que je travaille avec mes clients pour une raison très simple, c'est que pour moi il y a une relation très forte entre la rentabilité et la gestion du temps, au sens où quand on est dans un business qui n'est pas rentable ou qu'on a des offres en tout cas qui ne sont pas rentables, on peut très rapidement se retrouver dans la roue de hamster à devoir travailler toujours plus pour continuer à générer un chiffre d'affaires correct. Donc, je voulais qu'on parle un petit peu de rentabilité. Quelle est ta vision, toi, de la rentabilité et comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur sa rentabilité dans un business? C'est quoi exactement qu'on appelle rentabilité et quels sont les leviers qui peuvent nous permettre d'améliorer notre rentabilité quand on a besoin de travailler sur ces aspects-là?
Alors, la rentabilité d'une entreprise, elle est indispensable car c'est le seul indicateur de pérennité, déjà. Une mauvaise rentabilité met en danger l'entreprise et oblige l'entreprise à se financer constamment au lieu de profiter du fruit du travail qui est accompli.
On est d'accord que la rentabilité, c'est le fait de dire, quand on fait la balance là, dont tu nous parlais en compta, c'est le fait de dire les rentrées d'argent sont supérieures aux sorties en gros, quoi.
Exactement. Ça, c'est... Alors, comptablement, pour pas qu'on se mélange, on va parler de rentabilité, qu'une entreprise est rentable, mais attention, parce que j'entends souvent ça pour que ça soit clair pour les chefs d'entreprise. Comptablement, comme j'avais expliqué, lorsque ton chiffre d'affaires encaissé ou non encaissé et tes charges payées ou non payées, d'accord, sont supérieures à tes charges, c'est un bénéfice. Dans le cas contraire, c'est un déficit. Mais tu as vu, j'ai mis non payé ou payé, ou encaissé ou non encaissé. Le plus important, c'est ce qui te reste, ta trésorerie nette quand tu as payé et que tu as encaissé. Souvent, les gens se trompent, justement, notamment dans le prévisionnel. On te dit que tu as une rentabilité, que tu as un chiffre d'affaires supérieur à tes charges. Ok, mais entre-temps, sur ton prévisionnel, tous les mois, si ton client t'a pas payé tes factures, tu te retrouves en difficulté. C'est pour ça qu'il est important de regarder les deux. Ta rentabilité, mais aussi ta solvabilité. Parce qu'on parle beaucoup de rentabilité, mais on ne parle pas de la solvabilité. Et la solvabilité, c'est est-ce que tu es capable de payer tes factures. Et d'ailleurs, il y a un e-book que je vais bientôt sortir, que j'ai écrit et que, alors, l'année dernière, avec toutes les informations, parce qu'on me demandait qu'est-ce que c'était la rentabilité, la solvabilité, e-book que je vais te transmettre, justement, Claire, pour ton audience, qui pourront télécharger. Je parle justement de cette notion de rentabilité et de solvabilité qui est très importante dans une entreprise pour que les gens ne puissent pas se tromper. Parce que c'est souvent ça. Et autre chose, comment améliorer sa rentabilité? Il faudra identifier ses postes de coûts, c'est-à-dire de charges. Chaque fin d'année, il faut regarder où on en est. Est-ce qu'on a besoin de cet abonnement? Est-ce qu'on ne peut pas renégocier son prêt? Est-ce qu'on ne peut pas renégocier son loyer? Est-ce qu'on ne peut pas renégocier telle chose, etc. Ça, c'est de la petite trésorerie, tu sais, même si c'est des 10, 20, 40 euros, mais ça part tous les mois.
Ouais, on accumule les abonnements, et puis en fait, quand on fait les comptes à la fin, on se dit, attends, mais 500 plus 2000, ça monte très, très vite. Ça monte très, très vite, les abonnements, et c'est ce que tu disais, c'est des charges fixes qui peuvent être à un moment épurées. Donc, le premier levier, c'est potentiellement d'épurer un petit peu les charges fixes et diminuer les postes de coûts. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on peut travailler sur la rentabilité?
Travailler son prix de revient. Je vois très souvent que beaucoup de gens ont du mal à travailler leur prix, ont du mal avec le tarif.
Et sur ça, je trouve que c'est pareil. Ça fait partie des choses sur lesquelles on peut mettre en place des outils très rationnels. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la valeur qu'on apporte aux clients, mais de manière aussi très rationnelle, il y a le temps qu'on passe sur le service ou en tout cas à délivrer la valeur. Et à un moment, les amis qui nous écoutaient là, s'il vous plaît, chronométrez-vous un petit peu, remettez du rationnel dans tout ça. Et à un moment, il faut aussi savoir faire la balance entre ce que vous chargez au client et derrière ce que vous, ça vous coûte, ce que ça vous coûte en temps, ce que ça vous coûte en énergie, ce que ça vous coûte en charge mentale, ce que ça vous coûte en plein de trucs, et mettez un prix qui vous serve et pas un prix qui serve seulement votre client, quoi.
Oui, et puis un prix parce que tel concurrent a mis ce prix et que moi, je dois... On est tous différents, on n'est pas pareil, on a tous des études différentes, des expériences professionnelles différentes, etc. Non. Il y a un moment donné, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs, je vois les prix passer, je vois des choses passer, je me dis c'est pas possible en fait, non.
Donc on travaille sur les coûts, on travaille sur le prix, la tarification de ses offres. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser pour améliorer sa rentabilité?
Optimiser ses marges aussi, très important. Maîtriser ses charges fixes et variables, comme je l'ai expliqué, ça c'est aussi très important, ça je le répète parce que c'est des choses qu'il faut vraiment maîtriser. Et puis, adopter une gestion prévisionnelle pour prendre les bonnes décisions. Donc, il faut mettre ce tableau en place. Alors, on parle de prévisionnel, clair, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas du tout, justement, le budget prévisionnel. Donc, comment établir un budget prévisionnel? C'est simple, vous allez devoir récolter les données, votre chiffre d'affaires, vos dépenses fixes, vos dépenses variables, vos investissements, vos financements. Et puis, pour ceux qui vont dire, mais moi, je ne sais pas combien je vais gagner en janvier, en février, eh bien, vous allez définir plusieurs scénarios qui peuvent être possibles pour votre entreprise. Voilà, vous pouvez vous fixer par rapport à l'année dernière et vous dire, bon, ben, j'ai fait tant l'année dernière, je prévois de faire tant, ou j'augmente de 10 à 15% ou même 20% en me disant que je dois faire tant. Donc, bien évidemment, le « je dois faire tant » n'est pas suffisant. On va se bouger les fesses, on va mettre en place une stratégie de communication, on va mettre en place plein de choses, on va se faire accompagner. Mais au moins, on est préparé à, justement, à atteindre ce chiffre d'affaires. Faites un tableau qui puisse vous donner les chiffres clés de votre entreprise. Et vous les connaissez, ces chiffres clés, qui vous permettent de prendre vraiment les bonnes décisions. Pensez à plusieurs scénarios qui soient possibles, de façon à ce que, ok, si je ne les atteins pas, qu'est-ce qui va se passer?
Et j'ajouterais que sur le prévisionnel, etc., vous n'êtes pas obligé d'avoir un tableau Excel hyper blanc, hyper gris, etc. Pimpez-le si besoin, mettez-le à vos couleurs, mettez des petits emojis, mettez des petites automatisations qui vous font des petits hurrahs quand vous atteignez vos objectifs et que vous les dépassez, je ne sais pas. Faites pimpez-le pour que vous ayez envie d'y aller. Parce que en vrai, c'est tellement précieux comme outil de pilotage. Ne vous en privez pas, quoi. Vraiment, ne laissez pas votre désamour d'Excel vous priver de cette clarté et de et de et d'un outil de prise de décision qui est essentiel.
Exactement. Donc en fait, ce fameux prévisionnel va vous permettre de contrôler, d'anticiper, de planifier, de prendre des décisions. Et tu sais quoi, Claire ? Le prévisionnel ne se fait pas seulement en entreprise. Il se fait aussi personnellement. Chez toi, quand un client me dit « je veux gagner tant », tu l'as fait ton prévisionnel chez toi ? Toutes les dépenses que tu dois sortir, etc. Parce que souvent, on me le dit au pif. Hein. Mais quand j'assois un chef d'entreprise et je lui dis « fais ton prévisionnel personnel à toi, puisque tu m'as dit que tu veux gagner tant. Est-ce que tu penses que tout ce que tu as comme charge recouvre le salaire, ton salaire, ta rémunération recouvre tes charges ?» Ah non, il me faut plus. Ou certains, il me faut moins, mais bon, voilà. Mais juste pour vous dire que vous ne le faites pas seulement, surtout vous les indépendants, vous le faites aussi en perso, ce prévisionnel, parce que vous avez vos charges, etc. Et moi, je rajoute tout, hein. Les vacances, tout, je mets tout. Et vous le faites professionnellement. Et là, vous êtes, si vous avez ces deux tableaux, personnel et professionnel, plus un outil de gestion, bien évidemment, on n'en a pas parlé, Claire, cet outil de gestion de facturation, de commercialisation, etc., qui est très importante pour vos factures, que tout soit centralisé sur un même et même outil qui puisse vous permettre, et un outil que vous aimez bien, où vous vous êtes familiarisé, ne prenez pas des outils de gestion qui sont... C'est bon, on ne vous demande pas d'être non plus des as de l'outil, mais un outil qui est, quand vous avez envie, vous vous donnez rendez-vous, je vais sur mon outil, j'ai mon tableau de gestes, j'ai mon tableau de budget de trésorerie qui me permet de savoir où j'en ai, j'ai mon outil qui me permet de faire la facture, qui me permet de communiquer avec mon expert comptable, et si j'en ai pas, ben, qui me permet de communiquer avec moi-même et de prendre des décisions.
Pour finir notre conversation, je voulais te demander, ce serait quoi un conseil, rapidement, un truc vraiment, tu vois, actionnable, un conseil que tu donnerais pour éviter de procrastiner sur ces tâches de gestion financière?
Moi, je vous conseille de toujours garder le cap de votre vision, là où vous voulez aller. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu n'as pas le choix d'avoir ta gestion, d'avoir tes tableaux, etc. Tu n'as pas le choix. Pense à ce qui serait plus agréable si grâce à ces tableaux de gestion, grâce à cette organisation, qu'est-ce qui pourrait être favorable pour toi? Qu'est-ce qui pourrait être beau pour toi? Pour moi, c'est, je vous jure, hein, c'est tellement bien quand tu rentres chez toi ou dans, tu vois tes investissements ou tu voyages grâce aux fruits de ton travail. Ton travail où tu te lèves le matin et que tu te dis « waouh ». Prenez ce temps, posez-vous les bonnes questions. Soyez en adéquation avec ce que vous êtes. N'acceptez pas des choses que vous ne pourrez pas assumer ou que vous ne pouvez pas faire parce que vous voulez gagner absolument de l'argent. Posez-vous la question « pourquoi je veux gagner de l'argent ? Dans quel but je veux gagner cet argent ? Est-ce que je suis en adéquation ? Est-ce que je suis ancrée ?» C'est super important.
Je trouve ça hyper important de rappeler le pourquoi derrière l'argent, parce qu'en fait, l'argent, c'est, encore une fois, c'est juste un outil et qu'à un moment, si on n'y met pas du sens, que ce soit sur l'argent lui-même ou sur les routines qui vont nous permettre de mieux gérer notre argent et de mieux piloter nos finances, c'est difficile de s'y coller, entre guillemets. Et promis, pour vous faire mon retour d'expérience, quand on commence à se mettre le nez dedans, ça peut devenir un plaisir, même si à la base, on détestait ça. Donc vraiment... lancez-vous, en fait, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner à vraiment mettre en place une gestion financière dans votre entreprise. Merci Ina, en tout cas, pour tous tes conseils et pour tous tes partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent? Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, venir discuter avec toi de gestion financière?
Alors moi, je suis particulièrement sur Instagram. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram, où je donne énormément de conseils, d'ailleurs, sur les réseaux. Donc vous pouvez me laisser un petit message. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est avec grand plaisir. Et puis, je sors très prochainement, Claire, un e-book, justement sur la trésorerie, sur la rentabilité, avec des exemples qui sont clairs, avec un tableau de budget de trésorerie aussi, aussi simple qu'il puisse, vous pourrez mettre toutes les couleurs que vous souhaitez, même si vous êtes au fond, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui le sont, vous pouvez reprendre les choses en main. Et c'est seul vous qui avez la clé c'est pas les autres, ça sera pas le comptable, ça sera pas l'avocat, ça sera pas le banquier, c'est vous qui décidez de là où vous voulez aller. Alors aujourd'hui, décidez, mettez les choses en action et posez-vous cette question. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi je veux être là? Et voilà. Voilà. Et n'ayez pas peur des chiffres, parce que tout est dans les chiffres. Les chiffres disent toujours la vérité, mais par contre, ils peuvent aussi changer et ils peuvent être aussi favorables pour vous.
Merci mille fois Ina, je mettrai toutes les informations pour te retrouver sur Instagram et pour mettre la main sur la ressource que tu viens de nous partager dans la description de l'épisode. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve évidemment très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.
Super.
J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt.